À l'émission Sous l'Olivier, nous vous proposons une émission de la série ayant comme titre « L'aventure spirituelle », animée par le regretté Jean-Guy Saint-Arnaud, jésuite, prédicateur et auteur.
Nous revoilà encore dans cette série d'émissions sur la vie spirituelle. Des émissions qui veulent explorer ce monde très riche, trop inconnu, qu'on appelle la vie spirituelle. Notre vie spirituelle qui consiste à avoir du souffle, notre vie dans l'esprit, à être inspiré. À l'opposé d'une vie dépressive qui manque de souffle. Notre vie spirituelle qui est soumise à un devenir et qui, pour se transformer, pour progresser, doit être nourrie. L'exemple de la nourriture et de la digestion fait comprendre un peu la vie spirituelle, mais comparaison n'est pas raison. Et il faut... préciser que quand on parle de vie spirituelle, on serait mieux de parler en termes de relations interpersonnelles. C'est-à-dire que ma vie spirituelle serait mieux comprise si je la voyais comme dirigée vers une rencontre. C'est une rencontre d'une personne. Rencontre de Dieu, rencontre de Jésus-Christ. Et c'est de cette rencontre-là que provient la nourriture, si on peut dire, qui est le facteur de transformation. Un peu comme quand quelqu'un entre dans le sillage de notre vie, un ami, une personne qui nous est chère, ça transforme notre vie. Ce sont des perspectives beaucoup plus riches pour comprendre la vie spirituelle, dans son aspect de devenir. Nous devenons, au fil de nos rencontres, si on peut dire, et nous devenons absolument au fil de notre rencontre avec l'absolu. Le devenir de la vie spirituelle que nous explorons, il est riche de beaucoup de réalités qu'on n'a jamais fini de comprendre. Je voudrais aborder d'autres éléments de base de la vie spirituelle. Et là encore, je vais prendre une comparaison simple, mais éclairante, pour savoir comment fonctionne notre vie spirituelle dans sa croissance. Évidemment, il serait intéressant d'avoir un tacho, une échographie, un rayon X, un scanner, de l'endoscopie, là, pour saisir la vie spirituelle. Nous n'avons pas ces instruments-là. Nous avons simplement l'instrument de notre réflexion puis notre langage. Mais si nous utilisions ces instruments, nous pourrions découvrir que pour la bonne marche de notre vie spirituelle, deux fonctions sont nécessaires. Il y a deux éléments nécessaires pour que ça fonctionne. Non seulement nourrir sa vie spirituelle, mais ça suffit pas. À mesure où nous sommes en devenir. Deux instruments dont il faut assurer la parfaite conjonction. Il faut que ça fonctionne ensemble, on va le voir. La comparaison que j'aimerais vous suggérer, c'est la comparaison avec un véhicule, quel que soit le véhicule, une automobile, ou si vous n'êtes pas assez riche, vous pouvez prendre une bicyclette, une trottinette, ou même une marchette, là, ça fait la même chose. Ça fait comprendre beaucoup ces deux éléments. Dans tout véhicule, dans tout appareil là, qui bouge, il y a deux aspects qu'il faut toujours considérer. Il y a un aspect moteur, c'est-à-dire ce qui fait bouger le véhicule. La source d'énergie, le dynamisme qui met le véhicule en marche. psychologiquement, ce dynamisme s'exprime par l'affectivité, hein, la volonté. Et ça, c'est l'aspect dynamique de la vie psychologique. Et ce moteur porte le nom d'amour et trouve son centre dans ce qu'on a coutume d'appeler le cœur. Le cœur, c'est le moteur de la vie psychologique d'une personne. Dans la vie spirituelle, on parlera plutôt de charité. Autrement dit, pour que la vie fonctionne, se développe, il faut un aspect moteur, il faut un moteur, une source d'énergie de devenir. Il faut un cœur qui propulse la personne psychologiquement et spirituellement. Mais ça ne suffit pas d'avoir un moteur dans un véhicule. Il faut aussi un volant, une direction, un guidon pour ordonner précisément, orienter, diriger, régulariser les forces dégagées par le moteur, les énergies motrices. Et cette fonction au niveau psychologique renvoie aux facultés d'intelligence, aux facultés cognitives, à la tête. Hein, on va parler de la tête. En spiritualité, on parlera davantage d'intelligence spirituelle ou de discernement. Ces deux fonctions, le moteur, la direction, la tête et le cœur, hein, la charité puis le discernement sont faites. Ces deux fonctions sont appelées à travailler ensemble, à travailler, comme on dit, là, d'une manière plus scientifique, en synergie, en énergie composée. Chacun de ces deux éléments ont des choses importantes à faire dans le devenir de la personne et le devenir spirituel. Laisser à lui-même l'amour ou la charité aime sans mesure. Ça, c'est le rôle de l'amour. L'amour, laissé à elle-même, là, n'a pas de mesure à son amour. Évidemment, ça risque de faire des folies. Un amour qui n'est pas intelligent, ça fait des folies. La raison, de son côté, elle est faite pour mesurer. C'est son rôle. Et c'est ça risque de freiner puis d'étouffer les mouvements de vie si la raison est coupée, hein, du cœur, si vous le voulez. Une générosité qui n'est pas éclairée, ça arrive à faire du mal avec du bien. Ça, des exemples de ça, ça ne manque pas. Quand j'étais au collège, on nous offrait des bons romans à lire. Je me souviens, il y avait un petit roman, je ne sais pas si c'est... Finn ou Hublet qui avait écrit un petit roman, ça s'intitulait « Cœur d'or, tête folle ».« Cœur d'or, tête folle ». Vous connaissez des personnes, hein? Ça, le cœur sur la main, comme on dit, est bon, 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 mais ça n'a pas de jarniguane, comme on dit en beau. Ça réfléchit pas, de telle sorte que c'est toujours, les personnes-là ont toujours les pieds dans les plats, avec bonne volonté. Je sais pas si vous voyez, il y a une générosité à tout casser. Mais pas dirigé. C'est un peu comme une voiture qui a un gros moteur, un V8, puis qui n'aurait pas de volant. Alors c'est dangereux, une voiture comme ça, ça prend le fossé ou ça va se cogner sur tous les obstacles que la voiture pourra rencontrer. Il faut les deux. Il faut avoir de la voile et du gouvernail. Il faut pas perdre la tête pour un coup de cœur. Hein, il y a des proverbes comme ça qui disent la même chose. Et plus l'amour est fort, plus les forces dynamiques de la personne puis de la charité sont fortes, plus ces forces-là ont besoin d'être éclairées, d'être domestiquées, non pas pour les étouffer, mais pour les ordonner, les orienter.
Thank you.
philosophe Bertrand Russell exprime bien les conséquences désastreuses qui résultent, dans un sens comme dans l'autre, d'un divorce entre l'intelligence et l'amour, entre la tête et le cœur. Voici ce qu'il écrit. Au Moyen Âge, quand la peste apparaissait dans un pays, des hommes pieux conseillaient à la population de se réunir dans les églises et de prier pour qu'elle disparaisse. Vous voyez le spectacle? Ça n'a pas de bon sens. C'est la pire chose qu'il faut faire quand vous avez une maladie contagieuse, de mettre les gens ensemble. Il s'ensuivait, poursuit Bertrand Russell, il s'ensuivait que le mal se répandait avec une rapidité extraordinaire parmi les suppliants ainsi rassemblés, c'est bien sûr. C'est un exemple d'amour sans savoir, d'amour qui n'est pas intelligent. La dernière guerre fournit un exemple de savoir sans amour. Puis on peut dire la guerre actuelle aussi. Dans un cas comme dans l'autre, le résultat fut la mort à grande échelle. Imaginez toutes les puissances d'intelligence qui sont déployées pour bâtir des engins de mort, hein, des mines personnelles, des bombes. Ça, c'est l'intelligence qui est coupée de l'amour, c'est désastreux. L'amour qui est coupé de l'intelligence, c'est désastreux. Vous savez que Saint-Ignace, quand il s'est converti, sa charité, puis c'est le lot de probablement toutes les conversions, sa charité était tellement forte qu'il s'est mis à faire des folies religieuses. Il s'est retiré à Manresse, et là, il a fait ce que moi j'appelle des olympiques spirituels, des jeûnes à tout casser, des prières à s'écœurer pour toute sa vie. Je me dis, moi, le miracle, c'est que ce bonhomme-là soit pas devenu fou. Par charité. C'est que le moteur était, pour ainsi dire, emballé. Hein? Et il, lui-même, n'était pas... il n'avait pas l'intelligence spirituelle développée. Il ne connaissait pas encore les rudiments du discernement, ce qu'il va apprendre par la suite. Et il ne faut pas s'étonner que pour Saint-Ignace, c'est presque un slogan pour lui, une marque de commerce... Pour Saint-Ignace, il faut pas séparer la charité du discernement, hein, la caritas discreta. Plus la charité est forte, plus elle doit s'accompagner de discernement. La question qui se pose ici, mais la charité, comment travailler pour que le moteur soit en forme du point de vue spirituel? Bon, déjà, on peut le soupçonner. C'est en nourrissant sa vie spirituelle que les dynamismes spirituels vont devenir plus forts, vont servir vraiment à la croissance. Et concrètement, dans la vie spirituelle, c'est en se nourrissant d'un grand amour. C'est la contemplation. C'est en connaissant, en rencontrant le Seigneur dans l'oraison, dans l'adoration, dans la contemplation, et en établissant avec le Seigneur une relation signifiante, toujours plus approfondie, en établissant avec le Seigneur une sorte de dialogue qui croît avec l'usage, comme on dit sur les paquets de cigarettes. Le danger de rencontrer le Seigneur, c'est le danger d'être transformé par lui. Et c'est comme ça, en cultivant un grand amour, que nos forces intérieures se développent. Nous pourrons revenir sur cette contemplation, sur ce qu'on appelle la prière, parce que c'est un point important dans la vie spirituelle. J'aimerais attirer votre attention, votre exploration, sur l'aspect de discernement, l'aspect d'intelligence spirituelle. Le discernement spirituel, l'intelligence spirituelle est au service de la charité. C'est au service de la vie animée par l'esprit, hein, de ce qu'on appelle la vie spirituelle. La tête et le cœur ne sont pas faits pour se combattre, mais pour s'harmoniser. Il n'y a pas à choisir l'un ou l'autre. Hein, il y a des personnes qui sont plus affectueuses, d'autres sont plus intellectuelles. Je pense qu'il faut protéger, il faut respecter ces réalités personnelles. Mais il faut savoir équilibrer et la tête et le cœur. Quand on accompagne des personnes, c'est important de savoir quel est le tempérament spirituel de ces personnes. La tête n'est pas là pour freiner les élans du cœur, les mutiler, mais les protéger, les canaliser, les ordonner pour qu'ils portent à plein, pour qu'ils soient créateurs et non pas destructeurs. Nous n'avons donc pas à choisir l'un ou l'autre, mais à faire que la tête, comme disent les pères de l'Église, que la tête puisse rejoindre le cœur. Nous ne sommes pas programmés, ça peut être intéressant d'être programmé, mais nous ne sommes pas programmés comme les animaux. Vous savez que les animaux ne vont pas à l'école. Ils ont sorte d'inscrit dans leur système à quelque part, je ne sais pas trop comment. Quand vous voyez un jeune oiseau là, qui vient de naître, puis qui, à un moment donné, là, va mettre au monde des petits oiseaux, il va tricoter son nid sans jamais avoir appris comment. Il n'y a pas de livre, il n'y a pas d'école. Les êtres humains, c'est différent. Nous ne sommes pas programmés, bien pas totalement programmés. On a certaines programmations, une chance. Par exemple, le cœur nous bat à notre insu. S'il fallait être conscient à chaque battement de cœur, on n'aurait pas le temps pour d'autres choses. Mais notre grandeur, c'est que nous pouvons nous déterminer nous-mêmes. Je peux devenir qui je veux. Dans un de ses très beaux textes, Jean-Paul II, son encyclique sur la splendeur de la vérité, et c'est un père de l'Église qui dit que par nos décisions libres, nous nous mettons nous-mêmes au monde. Nous décidons de notre vie. Je peux devenir un saint, je peux devenir un bandit. J'ai cet espace de liberté. Et Dieu respecte notre liberté. Tout n'est pas décidé d'avance. Notre trajectoire de vie n'est pas inscrite à quelque part. Dieu n'est pas un ventriloque ou un marionnettiste qui nous manipule. Nous ne sommes pas manipulés par Dieu, mais nous prenons nos décisions de concert avec lui. Un peu comme des couples. Dans les Actes des Apôtres, il y a un texte extraordinaire qui est très beau, où les apôtres disent « L'Esprit et nous avons décidé. » C'est pas l'Esprit qui a décidé. C'est pas nous tout seuls. C'est nous et l'Esprit qui avons décidé. Le discernement spirituel, l'intelligence spirituelle, c'est une intelligence composite. C'est une intelligence de couple. Nous avons à voir clair avec la complicité de l'Esprit en nous. Le grand souffleur qui nous souffle les paroles quand on oublie notre texte, un peu comme au théâtre. Il n'y a donc pas de compétition entre Dieu et nous dans notre vie spirituelle. Le père Varion aimait beaucoup répéter que l'aventure, la vie spirituelle, n'est pas une aventure de massacre et de mutilation, mais essentiellement une aventure d'ordination, ordonner les forces de vie. Ça rejoint l'image de la voiture automobile. Le rôle du guidon, de la conduite, c'est d'ordonner les forces motrices, les forces du moteur. Pas les freiner, mais faire que la voiture fonctionne bien. L'aventure spirituelle n'est pas une aventure de massacre, de mutilation, mais d'ordination, de concertation. Il s'agit de chercher, dans notre vie, l'accord entre moi puis mon associé. Ben, c'est-à-dire, c'est moi qui suis associé au Seigneur. Mais c'est cet accord-là qui détermine l'orientation de ma vie et la croissance harmonieuse de ma vie. Il y a un vieux moine trappiste qui disait Dieu fait tout, bien sûr, mais il dépend de moi qu'il fasse tout. Ça exprimait là, d'une façon originale là, cette sorte de collaboration que le Seigneur veut, du fait de notre liberté, avoir avec nous. Thank you. quelques mots sur le discernement spirituel. C'est une réalité qui est tellement riche qu'on passerait des émissions et des émissions à parler du discernement spirituel, de l'intelligence spirituelle. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui manque beaucoup à notre culture religieuse ici au pays. On a été éduqué avec beaucoup de choses, mais c'est pas sûr qu'on nous ait formé au discernement spirituel. Le discernement spirituel consiste à me servir de mon intelligence, de mon sens critique au bon sens, à la bonne signification du terme critique, de servir de mon intelligence avec la complicité de l'esprit pour ordonner mes énergies spirituelles, pour ordonner ma charité, pour faire qu'il n'y ait pas de gaspillage, de perte d'énergie spirituelle. Une image qui me vient immédiatement en tête, puis qui est très belle, c'est l'image du thermostat. Vous savez ce que c'est qu'un thermostat? C'est le régulateur de chaleur. Je connais un endroit ici à Québec qui ont une grosse maison. Ils ont de la difficulté avec leur thermostat. Ou bien on crève de chaleur l'été, ou bien on crève de chaleur l'hiver. Ils n'arrivent pas à tempérer la chaleur. Le thermostat, c'est vraiment pour ordonner, hein, régulariser les degrés de chaleur. Trop de chaleur, on crève. Pas assez de chaleur, on gèle. Le discernement a ce rôle-là dans notre vie spirituelle. La chaleur, c'est la charité. Trop de charité, ça fait des désastres. Pas assez de charité, ça fait des désastres. Et c'est vraiment le volant de la voiture automobile qui oriente et ordonne toutes les énergies du moteur pour que le voyage se passe bien. Alors, ordonner mes énergies spirituelles, ma charité, pour qu'il n'y ait pas de gaspillage, des pertes d'énergie. Vous le savez, au Québec, durant l'hiver, si la maison est mal équipée, on va chauffer le Québec, comme on dit, hein, on perd de l'énergie. Le rôle du discernement, c'est d'assurer qu'il n'y a pas de perte de l'énergie, mais que la charité porte à plein et produise du fruit. Pour voir à ce qu'on ne fasse pas du mal avec du bien. On peut faire du mal avec des bonnes intentions. Hein, comme le prêtre là, qui invitait les gens durant la peste à se réunir pour prier. Il avait des bonnes intentions, mais ce n'était pas la chose qu'il fallait faire. Un des signes que ça ne va pas dans notre vie spirituelle, que notre vie spirituelle est mal ordonnée, c'est la fatigue, le stress, la tension, les malaises. C'est la dépression, si vous voulez, qui est l'inverse de la vie spirituelle, la perte d'énergie spirituelle, qui se traduit par de la fatigue. On est essoufflé quand on monte des escaliers. Le signe que ça va bien, c'est la joie et c'est la paix. En vous disant ça, la joie puis la paix, on se réfère à ce qui se passe à l'intérieur de nous, à notre affectivité profonde. Et le rôle du discernement spirituel, c'est de trouver dans notre affectivité profonde un langage qui nous parle de l'esprit en nous. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Le temps passe. À la prochaine émission, je reviendrai sur la façon de développer notre discernement spirituel et de faire que la charité qui nous habite puisse porter à plein dans notre vie, que notre vie spirituelle puisse se développer, devenir mature, devenir équilibrée, et qu'elle produise en nous beaucoup de joie, beaucoup de paix, beaucoup de consolation, qui sont les signes de l'esprit. En Galates 5, 22. Si vous voulez lire un livre intéressant là-dessus, il existe deux livres que je vous conseille. Le livre du père Thomas Green, en anglais c'est Weeds Among the Wheat, le bon grain et l'ivraie. Et le livre de C.S. Lewis, qui est un auteur anglais connu, qui s'intitule en anglais « Screwtape Letters » et en français traduit et republié plusieurs fois « Tactique du diable ». Il s'agit d'un livre inversé, c'est-à-dire une correspondance entre un vieux diable qui est à sa retraite morte et son jeune neveu qui commence son travail auprès des clients. C'est un livre de spiritualité à l'envers, très intéressant.
Vous venez d'entendre « Sous l'olivier » avec Jean-Guy Saint-Arnaud, jésuite, prédicateur et auteur.